Le récit.
Direction Cuba, au temps de la colonisation espagnole. C'est sur cette île qui connaît alors une croissance spectaculaire grâce à l'essor de la culture du café, du tabac et de la canne à sucre que Severiano de Heredia voit le jour en 1836. Mais cette explosion démographique et économique cache dans le premier tiers du 19e siècle une réalité bien plus sombre. Toute la journée, un nombre invraisemblable d'esclaves venus d'Afrique par dizaines de milliers s'affairent sans discontinuer sous un soleil de plomb dans les plantations. Severiano porte d'ailleurs la trace de cette histoire jusque dans sa chair. Si sa peau est sombre, c'est parce qu'il est le fils de gens de couleur libre, autrement dit parce qu'il descend d'esclaves affranchis ou libérés avec le temps, comme l'était le général Dumas par exemple, le père d'Alexandre Dumas en son temps. Severiano est ce qu'on appelle alors un mulâtre, un métis né de l'union de sa mère, Béatrice, et de son père, Henri. Enfin, sur le papier, parce qu'il est assez probable que ce ne soit qu'une façade. Son père biologique est probablement son oncle et parrain, Ignacio de Heredia. Au passage, cela ferait de lui le cousin du poète José María de Heredia, l'auteur du sonnet « Les Conquérants », dont vous connaissez au moins le début, Mathieu.
Bien sûr. Les Conquérants, magnifiques.
Non. Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigués de porter leurs misères hautaines.
Bien sûr, voilà.
De Palos, de Moguet, de routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal.
Tout ça de mémoire, mais vous me fascinez, Stéphane.
Non, j'avais pris le soin de prendre quelques notes. Qu'il soit ou non son véritable père, ce parrain a en tout cas montré un bel attachement à son filleul, au point d'en faire son héritier. Et comme l'homme était un riche planteur, Severiano de Heredia a grandi dans une certaine aisance, pour ne pas dire dans le luxe. C'est déjà rare pour un descendant d'esclaves, mais son parcours va très vite en faire un homme au destin exceptionnel. À 10 ans, sa famille souhaitant le protéger, Severiano fuit Cuba et s'embarque pour Paris. La richesse et les réseaux de ses proches lui ouvrent vite les portes de la bonne société et des établissements les mieux fréquentés. Élève au prestigieux lycée Louis-le-Grand, il fait des merveilles au point de recevoir le grand prix de l'établissement à 19 ans. À cet âge, Severiano est déjà à l'abri du besoin, ce qui lui permet de profiter pleinement de la vie. C'est un bel homme élancé, intelligent et rompu aux usages de la bonne société. C'est aussi un auteur cultivé qui se lance dans la poésie et la critique littéraire avec un certain talent, mais aussi un certain dilettantisme. Severiano de Heredia connaît une existence paisible jusqu'en 1870, lorsque la guerre contre la Prusse entraîne la chute du Second Empire et la naissance chaotique de la Troisième République. Pour Severiano, c'est un déclic. Au plus fort de cette année terrible, il réclame et obtient la nationalité française grâce à Léon Gambetta en personne, alors ministre de l'Intérieur, à qui il adresse ces quelques mots. « Je considère la France comme ma véritable patrie, la mère de mon esprit. Aujourd'hui qu'elle est en péril, je crois de mon devoir de lui payer ma dette de reconnaissance. » À 34 ans, Heredia décide aussi de s'engager en politique. La Troisième République est bien fragile encore. Libéral convaincu, Severiano se range dans le camp des républicains les plus exigeants. Humaniste et passionné, il attend davantage de pouvoir pour les départements et les communes. Il milite aussi pour la séparation de l'Église et de l'État, avec 35 ans d'avance sur la loi de 1905. Et il réclame une grande loi sur l'instruction universelle à qui Jules Ferry donnera une réalité des années plus tard, en 1882. Petit à petit, Severiano s'installe dans la vie politique. En 1879, il est élu président du Conseil de Paris, ce qui en fait le premier et seul maire noir de l'histoire de la capitale. Même si la place est symbolique, même s'il n'a pas les pouvoirs de ses successeurs contemporains, il laisse un bel héritage, puisque c'est lui qui crée notamment les bibliothèques municipales. Mais sa carrière politique ne fait que commencer. Élu deux fois député, entre 1881 et 1889, il porte ses idées novatrices avec une éloquence remarquée, défend le principe de la laïcité et l'école et bataille pour sa grande cause, l'enseignement public. Il défend aussi l'idée d'une éducation identique pour les filles et les garçons et lutte également pour la réduction à 10 heures des journées de travail pour les femmes et les enfants. Ses convictions, il les porte aussi à titre personnel en soutenant sa fille Marcel lorsqu'elle s'engage dans des études scientifiques qui en feront l'une des premières grandes physiologistes françaises. En 1887, à 51 ans, Severiano de Heredia atteint le point culminant de sa carrière en devenant le premier ministre noir de la Troisième République, chargé des travaux publics dans le gouvernement de Maurice Rouvier. C'est une période marquée par la menace que fait peser sur la République le général Boulanger, à qui Heredia s'oppose ouvertement. C'est aussi le temps des grands défis urbains, et Severiano s'attaque à un chantier emblématique, celui de ce qui deviendra plus tard la première ligne du métro parisien en 1900. En homme convaincu des bienfaits de la technologie, Heredia se passionne aussi pour les débuts des moteurs de voitures électriques, avec là encore, comme dans ses idées, de l'avance sur son temps. Mais Heredia est sur le déclin. En 1889, un an après la fin de son ministère, il perd un mandat de député qu'il ne parvient pas à reconquérir 4 ans plus tard. Il consacre alors la suite de son existence à ses deux passions. L'histoire de la littérature d'abord, l'éducation ensuite, en aidant sa femme à fonder l'une des premières écoles d'enseignement supérieur pour jeunes filles. Quand il meurt brusquement en 1901, son décès passe à peu près inaperçu. 14 ans après son élection à la tête du Conseil de Paris, tout le monde semble avoir déjà oublié le premier maire noir de la capitale. Des carrières comme la sienne ouvrent en général droit à des hommages, même minimes, comme un portrait dans les couloirs de la mairie de Paris, mais pas dans le cas de Severiano de Heredia. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il appartenait au gouvernement Rouvier et que celui-ci s'est écroulé pour une sombre affaire de trafic de légions d'honneur. Severiano n'y était pour rien, mais l'affaire a rejailli sur lui. La seconde raison, sans doute la principale pour l'historien Paul Estrade, qui a retrouvé sa trace il y a une dizaine d'années, c'est hélas sa couleur de peau. Tant que Severiano de Heredia s'est tenu éloigné de la politique, sa peau sombre n'a posé de problème à personne. Mais tout a changé quand il est devenu député puis ministre. À une époque où la Troisième République s'est lancée dans une aventure coloniale en se justifiant par la nécessité d'éduquer des peuples qu'on jugeait ouvertement inférieurs, Heredia a fait l'objet d'attaques que chacun trouverait aujourd'hui inadmissibles. Mais cette fin du XIXe siècle est celle où le grand public peut visiter de véritables zoos humains, par exemple au cours de l'exposition universelle de 1889 à Paris. Sous prétexte de montrer la variété des possessions coloniales, on monte de faux villages indigènes et on y expose quelques malheureux payés une misère pour jouer le rôle de sauvages ou de cannibales. Ces hommes et ces femmes ont la même couleur de peau que le ministre Heredia et il n'en faut pas plus pour inspirer à ses adversaires des saillies parfois abjectes. Pour cela, Heredia est le nègre du ministère, le nonchalant créole, le ministre chocolat, le nègre groublard aux grosses lipes. On ne se prive pas non plus de pointer les paradoxes d'un ministre pour qui des esclaves travaillent encore dans ses plantations cubaines. Ce noir qui possède des noirs offre une cible facile. Évidemment, Severiano de Heredia en souffre profondément. Non sans fierté, il ne s'abaissera pas à répondre publiquement à chaque attaque. Voilà sans doute pourquoi cet étranger, sans doute naturalisé trop vite aux yeux de ses ennemis, disparaît dans l'indifférence générale. L'oubli a été réparé en partie depuis par son biographe Paul Estrade, mais aussi par la mairie de Paris qui a donné son nom il y a quelques années à une petite rue des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Bien tard sans doute, mais comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.